Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Régulièrement, nous invitons le maire de Peltre, Walter Kurzmann, à venir à notre micro parler des projets concernant la commune. Cette fois-ci, il abordera les travaux de la maison rue de Chény qui va être séparée en 5 appartements, des travaux du presbytère, de ceux de l'atelier municipal, mais également du projet d'ombrelle photovoltaïque sur le parking de la mairie. Walter Kurzmann abordera également le projet de piste cyclable qui va relier la commune à Mercy, ses fonctions d'élu à la métropole de Metz et évoquera les prochaines élections municipales dans un an. Nous l'écoutons. Monsieur le maire, nous sommes là pour faire un petit point, comme régulièrement, un petit point sur l'actualité de la commune, qu'elle soit passée. Il y a une inauguration ou à venir, tout ce qui est en cours, ou les projets qu'on a déjà évoqués ensemble, de quelle manière ils ont évolué.
Bonjour Christophe, merci de me redonner la parole. Alors oui, on a fait une belle manifestation. Franchement, on était très contents de cette inauguration de ce baptême du nom de notre école élémentaire qui s'appelle donc maintenant Julie-Victoire d'Aubier. C'est une cérémonie qui s'est faite en 3 étapes. Le matin, nous sommes venus avec une de ses aïeules expliquer aux enfants qui était cette dame, Julie-Victoire d'Aubier, et pourquoi c'était important de donner son nom à leur école. Ils ont été très curieux, ils ont posé beaucoup de questions autour du PowerPoint qui leur a été présenté. L'après-midi à 15h, on a donc fait l'inauguration avec le dévoilement de la plaque. On est très heureux parce que toutes les classes étaient là. On avait des parents d'élèves qui étaient là, on avait les élus, etc., etc. Et puis le soir, on a terminé avec le pendant de ce qu'on avait fait le matin, c'est-à-dire une explication de qui était Julie-Victoire d'Aubier, mais cette fois-ci pour les adultes, avec un document qui était un peu plus soutenu. Et puis la dédicace du livre qui retrace sa biographie par son autrice qui était donc là présente.
Justement, pour nos auditeurs qui ne seraient pas de Peltre, est-ce que vous pouvez expliquer qui était Julie-Victoire d'Aubier?
Alors, Julie-Victoire d'Aubier, c'est la première femme bachelier, et on n'est pas bachelière, je vais vous expliquer pourquoi on dit bachelier, de France. On dit bachelier parce qu'à l'époque, le baccalauréat était réservé aux femmes. C'était donc sous Napoléon III, et donc c'est une dame qui est née dans une famille d'industriels à Bain-les-Bains. Malheureusement, quand elle est jeune, son père décède, donc avec sa maman, elle se replie sur les terres familiales, dans le 54, et elle veut s'émanciper. Elle trouve que c'est très injuste que les femmes n'aient pas droit à une éducation plus longue que les hommes, qu'elle soit limitée à l'éducation qui était donnée à l'époque par les sœurs, par les bonnes sœurs, avec un certificat d'études et puis après un certificat d'aptitude à l'enseignement qui permettait aux femmes de devenir institutrices, et elle, ça lui plaisait pas. Et donc elle a poursuivi toute seule, en étudiant dans les livres, en regardant au-dessus de l'épaule de ses frères, un petit peu, les cours qu'eux-mêmes recevaient, pour pouvoir se présenter au baccalauréat, chose qu'elle a faite, et donc elle a obtenu une bonne note au baccalauréat, et elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'après, elle a poursuivi avec une licence de lettres et une maîtrise de lettres. Malheureusement, elle décédera assez prématurément, on suppose de la tuberculose, parce qu'on a des écrits de ses neveux et nièces qui disent qu'ils l'ont retrouvée dans la maison familiale, alors qu'elle avait vomi du sang, donc c'est un peu la pathologie d'une maladie qui était assez courante à l'époque, la tuberculose. Alors, entre-temps, elle a été journaliste, elle a été traductrice, elle a beaucoup voyagé. Donc, vraiment, une femme très en avance sur son temps.
Donc, symboliquement, c'est un beau message que de baptiser l'école de son nom.
Ah oui, absolument. Surtout que son combat, hein, c'était vraiment le combat de l'éducation et le combat de l'égalité homme-femme dans l'éducation. Et donc, ça commence à l'école élémentaire.
Parlons maintenant donc de la suite des projets qui intéressent la commune. Il y a cette fameuse maison que vous rénovez avec 5 appartements.
Absolument, c'est le 6 rue de Chény. Donc on avait annoncé à vos auditeurs, et puis je l'avais dit lors des vœux à la population en début d'année, qu'on allait commencer les travaux. C'est chose faite. On a dû retarder un petit peu le début des travaux parce que je ne voulais pas que les travaux commencent sans qu'on ait validé définitivement les contrats d'assurance, dommages ouvrage et tout risque chantier, qui couvrent ce qui peut arriver pendant la durée des travaux. La réunion de démarrage du chantier a eu lieu la semaine dernière et donc on est dans la phase qu'on appelle la phase de préparation de chantier. C'est une phase réglementaire d'un mois, ce qui fait que tout début avril, on va commencer à voir l'installation de chantier qui va se mettre en place et ensuite les premiers ouvriers qui vont venir pour démonter les fenêtres, casser des planchers, enfin, etc., etc. Une vraie phase opérationnelle de chantier.
Donc, sauf problème qui interviendrait, c'est prévu pour quand la fin du chantier ?
Alors, on part pour 10 à 11 mois de chantier en fonction des aléas climatiques. Ben, faites le calcul, si tout va bien, février ou mars l'année prochaine.
Autre sujet, une nouvelle vision pour un chauffage ?
Absolument, c'est le sujet du presbytère. Donc sur le presbytère, On a exactement la même équipe de maîtrise d'offres que d'ailleurs sous le Cicelli. C'est un hasard, hein, puisqu'on a fait quand même un appel d'offres. Cet appel d'offres nous a conduit à retenir la même équipe. Et vous savez que dans les marchés publics, on a des phases qui sont réglementaires. On a la phase de diagnostic, après on a la phase d'avant-projet sommaire, puis d'avant-projet définitif. Seulement ensuite, on constitue le dossier de consultation des entreprises, etc. etc. C'est très normé. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre nous a présenté l'avant-projet sommaire et il devait nous présenter l'avant-projet définitif. On a refusé de valider l'avant-projet sommaire parce qu'on le trouvait pas assez ambitieux sur le chauffage. Le chauffage qui est prévu, c'est un chauffage assez basique à base de radiateurs électriques dans chaque appartement. Autant les économies d'énergie, et même si on va faire un bâtiment, alors qu'on n'y est pas contraint, hein, très économique en énergie, avec des très bons niveaux d'isolation, on a demandé à l'équipe de maîtrise d'œuvre de revoir la technologie du déchauffage ou du chauffage retenu. Je dis déchauffage parce que c'est déchauffage dans les 5 appartements, ou du chauffage si ça devait être un chauffage collectif retenu, pour avoir un chauffage un peu moins énergivore et un peu plus dans l'air du temps. On pense notamment à une pompe à chaleur collective. Alors techniquement, c'est un peu plus compliqué, hein, mais c'est totalement réaliste. Donc ils sont en train de revoir leur copie de façon à nous présenter assez rapidement un avant-projet définitif qui sera ou pas validé. Enfin, en tout cas, on espère qu'il sera validé. L'objectif étant quand même de lancer le chantier en début septembre de cette année.
La dernière fois, vous nous partagiez des petites inquiétudes ou des questionnements au sujet des fondations de ce presbytère.
Alors ça n'a pas changé, hein. C'est-à-dire que le rapport d'étude de sol est ce qu'il est. Hein. Maintenant on l'a, on sait qu'on va devoir refaire des reprises en sous-œuvre, ce qui a occasionné une plus-value de 160 000 euros. Ça n'a pas changé. La technique de reprise des fondations, pour le coup, elle a été validée lors de l'avant-projet sommaire. Il n'y a que le lot chauffage chauffage-ventilation qu'on n'a pas validé, le reste tout est validé.
Autre sujet, les ateliers municipaux.
Alors sur l'atelier municipal, on est très content, c'est un sujet qui avance bien. On a essayé d'impliquer les agents communaux pour qu'ils participent à un projet qui va les concerner, puisque c'est pour partie leur lieu de travail, même s'ils sont très souvent dehors et dans la commune. L'équipe de maîtrise d'œuvre nous a présenté l'esquisse, nous a présenté l'avant-projet définitif, sommaire, et devait nous présenter l'avant-projet définitif. On s'est fait un peu des frayeurs à la commission de travaux de la semaine passée parce que quand ils nous ont annoncé, alors on avait des beaux dessins, on était tous ébahis devant les beaux dessins, devant les plans, etc. etc. Ce qu'ils nous avaient pas dit, c'était la douloureuse. Nous, on a fixé un budget de 660 000 euros, on l'a pas sorti d'un chapeau, on a fait des ratios mètres carrés sur des opérations équivalentes, etc. etc. Ils nous ont fait des beaux dessins, etc. Ils se sont fait un peu plaisir, je pense. Enfin, un peu plaisir, et ils ont voulu nous faire plaisir, il faut être franc. Sauf que le monde de l'enveloppe, il passait de 660 000 à 900 000 euros. Et donc on a dit d'un commun accord avec tous les collègues de la commission de travaux, non, on reste sur le budget initialement prévu. Donc on a travaillé, hein, c'est une réunion qui a duré pas mal de temps, mais on a travaillé avec eux sur place, là, l'architecte avec le crayon à la main, enfin la souris et le stylet d'ordinateur à la main, pour déplacer le bâtiment, le configurer en miroir pour quand même permettre qu'il y ait une extension possible, réduire une travée, et il avait prévu 4 travées qui surdimensionnent le bâtiment, donc on va en garder que 3, on va le rapprocher un peu plus de la route pour économiser de la voirie, ils vont repasser tout ça à la moulinette économique, et puis on se revoit avant le 18 avril pour valider la nouvelle enveloppe et la nouvelle configuration du bâtiment dans cette phase d'avant-projet définitif.
Et le projet, ce sera un début de travaux pour quand à peu près ?
Comme pour le presbytère, on espère un début de travaux en septembre. Pourquoi début de travaux en septembre ? Parce que là, on part sur une opération neuve. Et moi, je pour avoir fait pas mal de travaux dans ma carrière professionnelle, je sais que si on ne démarre pas en septembre ou plus tard, mi-octobre, après, on se retrouve dans les intempéries et les terrassements, tout ce qui est préparation du gros œuvre et tout ça, ça devient compliqué.
Et c'est un chantier qui est prévu pour combien de mois ?
Celui-là, c'est un peu plus simple. On serait sur 8 mois de chantier. Donc ça reporterait, pareil, à fin avril de l'année prochaine.
D'autres projets en cours ?
Alors on a un petit projet, hein, 70 000 euros, mais qui nous tient à cœur, qu'on n'avait pas imaginé là au début. On avait imaginé sur la toiture de l'école élémentaire, parce qu'elle est particulièrement bien exposée. Puis finalement, on a rencontré des problèmes techniques dans l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité nous a démontré que si on voulait le maintenir là, il fallait qu'on reprenne l'étanchéité de la moitié de la toiture de l'école, qui a moins de 10 ans, puisque l'école, non, elle a un tout petit, autant pour moi, elle a un tout petit peu plus de 10 ans, puisque l'école a été refaite dans le mandat 2008-2014. Elle a été inaugurée en tout début 2014, après la mise en place du nouveau conseil municipal qui a succédé à Mme Valère. Mais bon, c'était une étanchéité qui était en bon état. Il aurait fallu mettre beaucoup d'argent sur la table, 70 000 euros de plus-value, pour avoir le même niveau de production photovoltaïque. Donc on a choisi de ne pas faire cette production en toiture, mais de se rabattre, entre guillemets, sur une solution en ombrière photovoltaïque, donc qui sera située sur le parking de la mairie. Donc il y aura 4 places qui vont recevoir cette ombrière et on attribuera le marché lors du conseil municipal du 26 mars. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne peux pas dire quelles sont les entreprises retenues, mais si tout va bien, dans un mois, on va commencer les fondations. Alors c'est assez simple, hein, c'est un portique en acier avec une toiture comme on pourrait faire pratiquement dans son jardin. C'est assez à la mode, on appelle ça un carport. Je n'aime pas trop l'expression carport, c'est une expression américaine. C'est un petit abri en fait, hein. Et comme on a une bonne orientation, une orientation sud-est, eh bien on va mettre sur le toit de cet abri, on va mettre des panneaux photovoltaïques en lieu et place de mettre des tuiles.
Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ?
Ouais, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais on peut parler vélo également.
Ah, on peut parler vélo, surtout avec vous, Christophe, effectivement. Oui, on travaille bien avec l'équipe de l'Eurométropole en charge du vélo. Ça fait presque un an qu'on est sur le sujet. Et là, on se voit, alors j'ai oublié la date, c'est courant avril, pour lancer les études d'exécution de la piste cyclable qui partira du bout de la rue de Gargan à la hauteur du 61-62 rue de Gargan vers la bifurcation qui passe normalement sous l'ancienne RD 955 pour aller vers l'Étrier. Et de là commencera la piste cyclable qui nous emmènera au CHR pour faire la continuité vers Metz. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ben on aura l'occasion de recommuniquer là-dessus. Quand les études d'exécution seront terminées, on fera un petit article dans le bulletin et on se reverra, nous, pour en dire plus à vos auditeurs.
On vous connaît donc en tant que maire de Peltre, mais peut-être pour vos administrés de Peltre, leur dire aussi quelles sont vos fonctions à la métropole. On n'en parle pas souvent.
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose assez connu par les concitoyens, c'est que quand on est maire d'une petite commune, on est forcément le représentant de la commune à la métropole. Et à la métropole, on redevient un petit peu comme adjoint au maire ou comme conseiller délégué à la métropole, comme si on était dans notre commune. Et donc moi, ma délégation à la métropole, c'est je suis en charge de la construction et de l'entretien des bâtiments métropolitains. Alors c'est quoi les bâtiments métropolitains ? Ben, c'est l'Opéra Théâtre, c'est le Conservatoire Régional de Musique, c'est le bâtiment de la métropole, c'est le pot des camions poubelles qu'on appelle le Centre Technique Métropolitain, c'est la Maison de l'Archéologie Préventive, et puis c'est des beaux projets aussi qui vont arriver, comme, le Musée de la Cour d'Or, et aussi donc des beaux projets qui vont arriver, comme la construction d'une nouvelle piscine, où là on est vraiment très avancé, en phase de consultation, c'est la construction d'un deuxième dépôt de bus pour, donc, à côté de l'unité de fabrication d'hydrogène sur le plateau de Frescati. Puis plein de petits travaux à droite, à gauche, notamment sur la ville de Metz, pour accueillir des locaux, des locaux poubelles où les commerçants viennent déposer leurs poubelles. L'inauguration la plus récente, c'était vendredi soir dernier, avec la rénovation de l'aile François de Curel au musée de la Cour d'Or, où c'était une belle prouesse parce qu'on a refait les façades, changé les menuiseries, donc ça c'est assez classique. Mais on a changé la toiture, qui était une verrière en très mauvais état, verrière qui datait de 1937, et on l'a remplacée par une toiture en zinc qui va parfaitement bien dans le paysage de la ville de Metz. Mais sur cette toiture, on a réussi à plaquer, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, 60 panneaux photovoltaïques pour produire environ 22 000 kWh par an, qui seront entièrement consommés par le musée. Et puis une très belle cour, je vous invite à venir la voir. La cour Amable Tastu. Alors Amable Tastu, peut-être que ça dira pas grand-chose à vos auditeurs, Christophe, mais c'est une poétesse messine qui était connue, elle est née toute fin du 18e, et elle est morte tout début du 19. À l'occasion de cette inauguration, des poèmes qu'elle a écrits ont été lus, et c'était très intéressant. Et donc cette cour porte désormais son nom, et sur une des façades de la cour, eh bien, vous verrez son portrait. C'est un très joli portrait qui a été fait par la maison Hugon, ferronnerie d'art, qui est installée dans la métropole avant tout.
On peut en profiter pour dire que cette cour, qui était très minérale jusque-là, a été en partie végétalisée.
Absolument, il y a un très très beau travail qui a été fait de végétalisation avec d'ailleurs un rosier qui porte le nom d'Amable Testu, rosier qui a été inventé, puisqu'on dit ça comme ça, par la Société d'horticulture de Metz, et donc rosier qui forcément avait toute sa place dans cette cour.
Dernière question peut-être, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter pour nos auditeurs. Elle va être lancinante et récurrente tout au long de l'année. Vous me voyez sûrement venir, on est pile à un an des élections municipales. Vous étiez déjà en réflexion la dernière fois qu'on s'est vu. Où en êtes-vous de cette réflexion-là? Est-ce que cette réflexion a évolué ou vous mettez toujours ça de côté?
Alors la question a évolué dans le sens où on avait un conseil municipal fin février. On a fait un tour de table de savoir qui dans l'équipe actuelle voulait partir ou repartir ou pas repartir. Ce que je peux dire aux auditeurs, c'est que on était plus que au départ on était 19, on a eu une démission, une deuxième démission, donc on se retrouve à 17 et sur 17, il y a 5 conseils municipaux seulement qui seraient prêts à repartir. Je ne me compte pas dans les 5 puisque je réserve toujours ma décision. Les plus anciens les plus anciens, les élus qui exercent un mandat depuis le plus longtemps ont tous décidé de passer la main. Je trahis aucun secret en disant que c'est Dominique Necht, Jean-Claude Bastien, Monique Leder. Et alors je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a il y en a une qui s'interroge, je ne vais pas dire qui c'est, elle s'interroge donc je vais la laisser à sa réflexion. Les autres collègues, certains ne souhaitent pas se représenter pour des problèmes de disponibilité personnelle, professionnelle. Enfin, c'est toujours compliqué hein, d'allier une vie d'élu, de passer un peu de temps le soir pour les autres en délaissant sa famille.
Oui, ça peut être usant.
Ça l'est, je confirme. Après, l'année prochaine, ça fera 25 ans que je suis élu et je trouve que mon épouse et ma famille ont eu beaucoup de patience.
Donc, en gros, c'est une bouteille à la mer qui est lancée peut-être pour que de nouvelles énergies viennent toquer à la porte?
Allez, s'il y a des gens qui sont des âmes de mer et qui pensent qu'ils ont la compétence, la démocratie, c'est fait pour ça. Hein, c'est qui prépare une liste et qui se lance, qui se jette à l'eau. Hein. Moi, je pense que j'arrêterai définitivement ma décision en septembre.
Je vous remercie, monsieur le maire.
Eh bien, bon début de printemps, hein, puisqu'on y est depuis quelques jours, à toutes et tous, avec une belle journée ensoleillée comme on a eu. Je vous souhaite à tous un bon début de printemps et à bientôt.
C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.